Vous l'avez compris, Christian étudie au même endroit que moi, donc si je me trompe, il pourra me corriger pendant la prédication. Je voudrais qu'on puisse ce matin parler un peu du personnage d'Élie. Donc si vous voulez prendre dans vos Bibles à 1 Roi 19, versets 1 à 18. Mais avant, je voudrais vous parler de quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on connaît un peu moins, qui nous est un peu moins familier. Et cette personne, elle s'appelle Abdias. C'est l'intendant du palais du roi d'Akab. Abdias, c'est une personne plutôt discrète, qui ne fait pas beaucoup de vagues. C'est l'intendant du palais, il a de grandes responsabilités, mais il est, on dirait, il ne paye pas de mine. Et cet Abdias, un jour qu'il est au palais, voit arriver un homme, on ne sait pas trop qui c'est. Il s'appelle Élie, on ne sait pas trop d'où il vient. Mais devant toute la cour, au roi Akab, il dit, pendant trois ans et demi, il n'y aura pas une goutte de pluie à cause de la parole que je vais dire. Et puis il s'en va. Vous imaginez, vous êtes intendant au palais, quelqu'un vient vous dire ça, et vous constatez assez vite qu'effectivement, il ne pleut plus. C'est un problème. Mais il y a un problème beaucoup plus grand encore. C'est qu'au palais, à côté du roi Akab, il y a une femme terrible, une femme méchante. Elle s'appelle Jézabel. C'est une reine étrangère qui a une haine incroyable pour tous les serviteurs de l'Éternel, pour tous les serviteurs du vrai Dieu. Et elle a fait tuer quasiment tous les prophètes. Quasiment. Parce que ce très discret Abdias, voyez-vous, il a réussi à sauver 100 prophètes de l'Éternel. Il les a cachés dans deux grottes et il les nourrit chaque jour. Mais personne ne le sait. C'est un peu l'espion à l'intérieur du palais. Quelqu'un disait, soyez proche de vos amis, soyez plus proche encore de vos ennemis. C'est le cas d'Abdias. Il est dans le repère même de ce qui constitue le mal à cette époque en Israël. Et puis un jour, Abdias était dans sa maison et le roi Akab le fait appeler. Alors il se met en route, 3 ans et demi après que la sécheresse ait commencé, et il rencontre Élie. Et là, c'est un peu le choc. Il est en face de lui, la personne même qui a causé tous ces malheurs en Israël depuis 3 ans et demi. Et lui dit, tu sais, j'ai sauvé 100 prophètes de l'Éternel. Mais toi, aujourd'hui, si tu ne viens pas avec moi au palais, je vais mourir. On va me tuer. Mais Élie était déjà en route pour aller au palais. Et puis il va voir Akab. Et juste avant d'aller voir Akab, il fait un petit détour par le mont Carmel. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui s'est passé au mont Carmel, mais il y a eu une confrontation terrible et incroyable de puissance entre tous les prophètes du dieu Baal que adorait la reine Jézabel et Élie qui représentait la vraie religion, le vrai Dieu. Les prophètes de Baal ont fait beaucoup, beaucoup de choses pour dire que la pluie allait tomber, que le feu allait tomber, et il ne s'est rien passé. Le prophète Élie a prié, et le feu est tombé du ciel. Et puis ensuite, le prophète Élie a été voir le roi Akab, il a prié, et la pluie est tombée du ciel. Abdias voit tout cela. Qu'est-ce que vous vous seriez dit? Vous êtes fidèle au Seigneur, vous voulez le servir, et vous avez devant vous un homme d'une telle ampleur, d'une telle stature. La comparaison n'est pas très élogieuse. Assez vite, vous vous dites, oui, mais moi, je ne suis pas. Aujourd'hui, on se dirait, mais moi, je ne suis pas Billy Graham. Moi, je ne suis pas Colin Urquhart. La question que Abdias pourrait se poser, c'est, mais ce Billy Graham, ce Colin Urquhart, qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qui se passe dans sa relation avec Dieu? Comment il se situe? C'est un peu ce que je voudrais qu'on puisse voir ce matin. Et du coup, on va se poser un certain nombre de questions et on reviendra à Abdias un petit peu plus tard. Si vous prenez les premiers versets du chapitre 19 des Rois, voici ce qu'on peut y lire. Achab rapporta à Jézabel tout ce que avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un fort vent et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. » Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7 000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Parole du Seigneur. Parfois, quand on est prédicateur, on n'est pas toujours très à l'aise. Par exemple, il y a des versets qui disent « Béni soit celui qui écrase la tête de tes petits sur le rocher. » Et puis après, il faut quand même dire « Parole du Seigneur ». Là, on a une dimension de jugement terrible et difficile. On y reviendra dessus un peu plus tard. Pour l'instant, je voudrais qu'on s'attache un peu au personnage d'Élie. On va se demander, Élie a fait beaucoup de choses très extraordinaires dans le peuple d'Israël. Mais on peut se demander quelle image il avait de lui, comment il se voyait. La première chose qu'on va regarder, c'est que Élie, au début de notre chapitre, est complètement découragé. Alors, on a juste un tout petit point à éclaircir. Je vous ai lu le texte dans la Bible de Louis II. Je vais la lire dans la Bible de Louis Sommer. Dans la Bible de Louis II, il est écrit « Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. » Dans la Bible, Summer, celle-ci, il est écrit « Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie ». Vous constatez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans l'une, Élie voit, dans l'autre, Élie a peur. On va faire un truc un tout petit peu technique. Il faut juste que je vous explique. En hébreu, les manuscrits qu'on a n'ont pas de voyelles. C'est des manuscrits très anciens et les voyelles vont arriver beaucoup plus tard. Et si on prend le mot, si on change une voyelle, on change le sens du mot. Quand ceux qui ont reçu les manuscrits vont lire beaucoup plus tard, ils vont lire en mettant des voyelles. Mais du coup, cette vocalisation, elle est différente d'une lecture à l'autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je vous propose de retenir la vocalisation « il eut peur » parce que je trouve que c'est celle qui est la plus parlante dans l'ensemble du passage. Élie vient de vivre une victoire incroyable au Mont Carmel. Il y avait devant lui plus de 500 prophètes de Baal. Dieu s'est fait connaître à travers le feu. Les prophètes de Baal sont morts. Il est en pleine gloire. Et tout à coup, voilà que la reine Jézabel lui envoie un message en disant « Il va t'arriver strictement ce que tu viens de faire aux prophètes de Baal. » Si demain vous receviez un message préavis de meurtre, je ne sais pas comment vous vous sentiriez. Mais on va essayer de voir pourquoi il se sent aussi découragé. Quand Dieu parle à Élie, Élie lui répond que lui seul, il est resté en Israël. Là, on a un problème. Un tout petit peu plus tôt, il avait rencontré Abdias. Et Abdias lui avait dit « J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel. » Et Élie dit « Je suis resté seul en Israël. » Est-ce que Élie ment ? Vous sentez bien là qu'on n'est pas tout à fait à l'aise avec la figure d'Élie. Alors, c'est d'autant plus parlant que l'auteur du Livre des Rois ne nous dit pas si Élie était un chic type ou pas. Spontanément, on a envie de dire « C'est évident, c'est un prophète de l'Éternel. » Eh bien, il se peut que les choses soient un tout petit peu plus subtiles que ça, et on va essayer de rentrer là-dedans. Je voudrais vous proposer tout de suite de comprendre un peu la manière de parler des Hébreux de l'époque. Quand Élie dit « Je suis resté seul en Israël », en fait, il n'est pas en train de mentir, c'est une exagération habituelle. Quand vous dites « Le soleil se lève, le soleil se couche », aucun d'entre vous n'imagine que le soleil se lève effectivement et se couche. Vous êtes tous conscients que la Terre tourne autour du soleil et ça n'est qu'une manière de parler. C'est ça ? Oui, c'est bon, la Terre tourne autour du soleil. J'ai eu un doute. Comment ? Il y a des ? Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, cette manière de parler d'Élie, c'est une manière de l'époque de parler, comme nous aujourd'hui, on dit le soleil se lève et le soleil se couche. Il est évident qu'Élie a conscience que d'autres prophètes sont restés fidèles en Israël parce que Abdias le lui a dit. Mais ce que Élie veut peut-être dire, c'est que lui, il est le seul à s'être relevé et à avoir confronté la puissance de Baal. Il est resté seul en Israël parce qu'il est le seul à avoir eu le courage de se lever et de dire « c'est une injustice par rapport à l'Éternel, ça n'est pas possible ». Et on va voir ce que Dieu lui répond un peu plus tard. La question qu'on va se poser, c'est comment Élie se voyait en faisant cette confrontation de puissance au moment du Carmel. Je vous propose de lire tranquillement chez vous, paisiblement, Nombre 25, mais je voudrais vous parler du personnage dont il est question à l'intérieur. Le contexte est à peu près le même. Le peuple d'Israël est dans le désert. Il y a des femmes étrangères qui sont venues et qui commencent à apporter une idolâtrie. Moïse essaye de rétablir les choses, mais il y a un homme qui prend une femme étrangère et qui va adorer un faux dieu devant tout le monde dans la tente de la rencontre. La tente de la rencontre, c'est l'endroit où Dieu se révèle, c'est le lieu saint, sacré. On ne pouvait pas y faire n'importe quoi. Et là, il y a un homme qui se lève, qui s'appelle Phinéas, qui est un prêtre. Il rentre dans la tente de la rencontre et il tue l'homme et la femme. C'est trash, je suis d'accord. Mais la sainteté de Dieu ne commandait pas, ne pouvait pas commander une certaine légèreté, surtout dans l'attente de la rencontre. Le prêtre se lève pour purifier l'endroit, et on dit qu'il est très zélé. Il a un zèle dévorant, une passion dévorante pour l'Éternel, qui fait que l'Éternel voit le cœur qu'il a, l'agrée, et lui, il dit « Je te donnerai une alliance de paix et une descendance à toujours. » Il est zélé pour l'Éternel, et Dieu lui donne la paix et une descendance. Que dit Élie quand l'Éternel lui demande ce qu'il fait là? Il dit « J'ai été animé d'un zèle pour toi, d'un zèle jaloux. » Ce que je vous propose, c'est de comprendre qu'Élie se voyait comme un Phinéas, comme un nouveau Phinéas, comme quelqu'un zélé en Israël, qui voit l'idolâtrie monter, qui voit ce que fait la femme étrangère et qui se lève pour confronter et purifier Israël. Sauf que s'il s'identifie à Phinéas, il va jusqu'au bout. Après la victoire de Phinéas, c'était une alliance de paix et une descendance qui arrivait. Élie s'attendait tout naturellement à avoir une alliance de paix et une descendance. Et ce qui lui arrive, c'est un préavis de meurtre. Il y a de quoi se sentir découragé. Vous estimez être le seul suffisamment zélé pour tenir tête à Baal en Israël. Vous estimez qu'il y a une récompense qui doit venir avec cela. Et votre récompense, c'est la mort. Alors Élie s'en va. Et il préfère mourir de la main de l'Éternel que de mourir de la main de Jézabel. On voit quand Élie parle à Dieu qu'il s'interroge, mais qu'il ne fait aucun reproche à Dieu. Il lui dit « Moi, je suis resté en Israël. Eux, ils ont abandonné ton alliance, mais moi, je suis resté. » Quelque part, la question qu'on entend derrière, c'est « Et alors ? Pour moi, qu'est-ce qui va arriver ? Est-ce que tu n'étais pas censé me donner une alliance de paix ? Et regarde, Jézabel en veut à ma vie. » Mais Élie connaît Dieu. Au moins, en tout cas d'une certaine manière, il connaît Dieu. Et donc, il ne va pas arriver et dire « J'ai des droits, donne-moi ce à quoi j'ai droit. » Il est beaucoup plus subtil que ça. Il lui dit « Voilà les faits. Qu'est-ce qu'il va advenir maintenant ?» Voilà un peu ce que je vous propose, la manière dont Élie se voit comme un nouveau Phinéas, comme un prêtre zélé en Israël qui vient purifier Israël. Mais maintenant, j'aimerais qu'on s'attache à la manière dont Dieu voit Élie. Et vous allez voir que, à cet endroit, au mont Horeb, Élie se fait corriger avec délicatesse et tendresse de la part de Dieu. Est-ce que Élie est un nouveau Phinéas? Il semble que pour Dieu, ce ne soit pas le cas. Il semble qu'Élie est invité à rentrer dans une nouvelle destinée. Pas la destinée qu'il s'imagine avoir lui, mais la destinée que Dieu lui a prévue. À quoi on peut voir dans notre texte que Élie serait comme un nouveau Moïse? On va voir qu'il y a un certain nombre de parallèles. Le premier, la vie de Élie est en péril, son réflexe, c'est de fuir au désert. Si vous prenez Exode, chapitre 2, verset 15, il est question pour Moïse de ceci. « Quand le Pharaon apprit ce qui s'était passé, il chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit pour échapper au Pharaon et il vint s'installer en Madian. Jézabel cherche à tuer Élie, le Pharaon cherche à tuer Moïse, les deux fuient au désert. » C'est un premier indice. Deuxième indice, Moïse et le peuple ont été nourris de manière miraculeuse au désert. Vous vous souvenez du vol de caille? Vous vous souvenez de la manne, ce pain qui est donné à tous? Élie est nourri de manière miraculeuse au désert, par du pain et de l'eau. Et puis, il est question d'un jeûne. Dans Deutéronome 9, 9, quand Moïse et sur la montagne et qu'il parle avec Dieu, il reste 40 jours et 40 nuits sans manger. Élie traverse tout le désert et il reste 40 jours et 40 nuits sans manger. En Exode 24, 18, on voit que Moïse s'entretient avec Dieu de manière toute particulière, de manière toute privilégiée. Sur le mont Horeb, on voit que Élie s'entretient avec Dieu de manière toute particulière, toute privilégiée. Et puis, il y a la question de la théophanie. Alors, ce qu'on appelle la théophanie, c'est la manifestation de Dieu de manière spectaculaire. Dans Deutéronome 4, 11, Moïse voit du feu, voit des ténèbres, une nuée. Élie, il y a le vent, le feu, le tremblement de terre. On voit là qu'il y a, presque sans qu'il s'en rende compte, Élie vit quelque chose qui le rapproche de manière toute particulière de Moïse. Seulement, il y a une véritable différence. Quand Moïse est découragé par le peuple, il se présente devant Dieu, mais il intercède pour le peuple. Quand Élie est découragé par le peuple, il se présente devant Dieu et il accuse le peuple. Et là, on voit une certaine différence. Moïse est connu pour être l'homme le plus doux et le plus humble que la terre ait jamais porté. C'est intéressant que ce soit cet homme-là et pas un autre qui a porté la loi. Il avait un cœur doux, il avait un cœur de berger. Il était compatissant comme l'Éternel était compatissant. Et c'est lui qui apporte la loi. Est-ce qu'on retrouve ce même cœur chez Élie ? Pas véritablement. On n'a pas suffisamment d'informations pour l'affirmer de manière nette et tranchée, mais globalement, quand on prend le personnage d'Élie, on n'a pas l'impression que ce soit le champion de la compassion et la miséricorde. On a plus l'impression qu'il a la sainteté de Dieu à cœur de telle manière qu'il apporte un jugement terrible. Alors, je voudrais qu'on s'attache un tout petit peu à ce que c'est que cette théophanie, cette manifestation de Dieu, pour comprendre quel est l'enjeu dans le passage. Vous le voyez derrière moi, c'est une tablette archéologique très ancienne qui nous représente le dieu Baal. Le dieu Baal, c'était un dieu très connu de la Mésopotamie, un dieu important, qui était le dieu de la pluie, de l'orage, de la foudre, de la fertilité. Or, Israël, qui adore le dieu Baal, vient de passer par 3 ans et demi de sécheresse. Pas de pluie, pas d'orage, pas de foudre, aucune fertilité. Dieu est venu pour confronter la puissance de Baal. Mais allons plus loin, au mont Carmel, Baal est le dieu de la foudre. Mais d'où vient le feu qui tombe du ciel ? De l'Éternel. On voit que dans les chapitres 17 et 18 du livre des Rois, Dieu utilise les attributs qu'on est censé donner à Baal en disant « c'est moi qui suis le maître de ces choses, ça n'est pas Baal. Baal n'est rien. Vous n'avez pas à adorer Baal. Il n'a aucune puissance, c'est moi qui ai la puissance. » Donc certains auteurs, quand ils vont lire cela, vont se dire « c'est évident, cette manifestation de Dieu au mont Horeb, c'est une manière de renvoyer Baal un peu chez lui, dans ses plates-bandes. Et du coup, c'est une manifestation qui montre que Dieu est plus fort que Baal. Seulement, on a juste deux tout petits problèmes dans ces cas-là. Le premier, c'est que Baal n'est pas du tout mentionné dans ce passage. Le deuxième, c'est qu'il est dit que Dieu n'est pas dans le vent. Dieu n'est pas dans le feu. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Alors, moi je voudrais vous apporter une lecture un tout petit peu différente, qui est qu'il y a ici un enseignement et une correction apportée à Élie dans cette manifestation de Dieu. La première, c'est que quelqu'un en Israël à l'époque qui voit la puissance de Baal réduite à néant et la puissance de Dieu qui se manifeste par la pluie à la fin de la sécheresse, par le feu, se dira automatiquement « Dieu est dans la pluie et le feu ». C'est le Dieu de la pluie, c'est le Dieu du feu. Et là, c'est une manière subtile pour Dieu de corriger une interprétation qui pourrait être mauvaise en disant « Attention, Dieu est différent de la pluie, Dieu est différent du feu. Dieu n'est pas ses créatures et ses créatures ne sont pas Dieu. » Il y a une nette différence. Mais la correction va plus loin et particulièrement pour Élie. Qu'est-ce que c'est que ce vent dont il est question? Eh bien ce vent, dans le chapitre juste avant, c'est celui qui apporte la pluie, c'est celui qui apporte les nuages. De toutes parts, le ciel devint noir de nuages, le vent se leva, et une forte pluie se mit à tomber. Dieu utilise le vent pour amener la pluie et se faire connaître au peuple d'Israël. Il est le Dieu qui maîtrise les éléments. Dans 1 Roi 18, au mont Carmel, Dieu utilise le feu pour se faire connaître. Il fait tomber le feu sur l'autel. Et là, on comprend qui est Dieu, qui est puissant. Il est le Dieu souverain au-dessus de toute chose. Mais dans notre passage, Dieu n'est pas dans ces choses. C'est une manière pour Dieu de dire à Élie, j'ai beau utiliser le vent, j'ai beau utiliser le feu, je ne suis pas lié à ces choses, je ne suis pas obligé de les utiliser à chaque fois. Je suis souverain sur les instruments que j'utilise pour me faire connaître. Élie, s'il comprend ça, il y a un lien qui se fait. J'ai été la personne que Dieu a utilisée pour le faire connaître au peuple d'Israël. Oui, mais Dieu est souverain. Il n'est pas lié à moi. Il ne me doit rien. Moi, je pensais que si j'étais prophète en Israël, j'aurais une alliance de paix. Mais Dieu n'est pas obligé de m'utiliser. Il a utilisé le vent, mais il n'est pas obligé d'utiliser le vent à chaque fois. Il m'a utilisé moi, mais il n'est pas obligé de m'utiliser à chaque fois. Dieu ne me doit rien. Finalement, certains voient dans ce passage comme un rejet d'Élie. Dieu dit à Élie, tu as joué, tu as perdu, tant pis pour toi. Après toi viendra Élisée et d'autres qui vont faire ce que tu n'as pas réussi à faire. Quand tu étais au milieu du danger, tu es parti, tu as fui. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette lecture-là. Il me semble que, effectivement, Élie n'est pas totalement juste. Mais Dieu ne lui reproche pas de s'être découragé. Et Dieu ne rejette pas Élie. Au contraire, il lui dit, après cela, tu vas partir et tu vas oindre différentes personnes. Je vais continuer à t'utiliser. Mais la leçon que tu auras retenue, c'est que si je continue à t'utiliser, ça n'est pas à cause de toi, c'est à cause de moi. Ça n'est pas parce que tu as plus de mérite qu'un tel ou un tel, c'est parce que moi, je l'ai souverainement décidé ainsi. Élie, je ne te rejette pas. Mais sache que si je t'utilise, c'est une grâce que je te fais. Je trouve ça incroyable. Parce que nous, quand on regarde un peu du coup cette figure d'Élie, à la fois ça nous remet à notre juste place et à la fois ça nous rassure. Est-ce que je suis Billy Graham? Non. Mais est-ce que Billy Graham a quelque chose de plus que moi? Peu importe. La seule chose qu'il est bon de savoir, c'est que Dieu a choisi Billy Graham pour faire ce qu'il a fait. Et Dieu m'a choisi moi pour faire ce que je ferai. Dieu a choisi chacun d'entre vous pour une destinée particulière. La mère de famille va peut-être pas évangéliser partout avec la puissance d'un Billy Graham, va peut-être pas avoir un enseignement percutant avec la précision d'un Colin Urquhart. Mais la grâce qui lui a été faite, c'est d'être celle qu'elle est, là où elle est. Et elle peut remercier Dieu pour ça. Est-ce qu'elle a des mérites particuliers pour le faire? Ça n'est pas en fonction de ses mérites que Dieu l'a choisi. C'est par grâce. Au mont Horeb, Élie fait l'apprentissage de la souveraineté de Dieu et de sa grâce. Quelque part, il y a cette parole un peu dans l'Écriture qui dit qu'on est des serviteurs inutiles. Je ne vois pas du tout, moi, cette parole comme quelque chose de dur ou comme un rejet. Au contraire, pour moi, cette parole est la manifestation de l'amour de Dieu. Nous sommes des serviteurs inutiles. Certes, mais des serviteurs, pourquoi? parce que Dieu nous a choisis, parce que Dieu nous a fait la grâce de nous amener à le connaître et d'œuvrer pour lui. Et ça, ça n'est pas rien. Mais entrer dans cette vocation qui est la nôtre ne doit pas nous faire oublier que Dieu est souverain, que c'est lui qui maîtrise toutes choses, qu'il ne nous doit rien et qu'il n'est pas lié à nous de manière à ce que nous puissions exiger quelque chose de lui. Ce que je trouve incroyable, c'est que, du coup, Élie n'a pas du tout été rejeté par Dieu. La preuve qu'on peut en avoir, c'est qu'il apparaît à la transfiguration à côté de Jésus et de Moïse. Mais c'est d'autant plus fort, je trouve. Parce que si vous comprenez que Moïse a donné la loi à Israël, vous comprenez qu'Élie a fait l'expérience de la grâce pour Israël. Et quand Jésus vient, il vient pour accomplir la loi dans la grâce. Finalement, la leçon que Dieu apporte à Élie, c'est lui dire « Oui, je t'ai choisi. Oui, je t'ai envoyé en Israël, mais pas à la manière dont tu le penses. Je ne t'ai pas envoyé comme un nouveau Phinéas, je t'ai envoyé comme un nouveau Moïse. Je t'ai envoyé pour que tu apportes le jugement dans la grâce. » Alors, à quoi on va voir que ce jugement est donné dans la grâce? Eh bien, à deux petites choses. La première, c'est Abdias. Ce que je voudrais vous apporter, et je voudrais insister là-dessus, parce que je trouve que la comparaison est ce qui a tué le plus de vocations dans une église, c'est que nous avons un Élie étincelant, incroyable, sous le feu des projecteurs, mais qui doit faire une expérience de correction des motifs de son cœur. Et à côté, nous avons un Abdias, l'intelligence de l'ombre, celui qui est caché au sein du palais. Mais il n'a tué personne, il n'a porté aucune sécheresse, il a sauvé et nourri 100 prophètes de l'Éternel. Est-ce que l'un est meilleur que l'autre ? Je ne pense pas que la question se pose dans ces termes-là. Ce qu'il faut que nous retenions, c'est que l'un est avec l'autre. Il y aura des Billy Graham sous le feu des projecteurs. Mais ô combien il y a des Abdias, et ô combien ils sont précieux aux yeux de Dieu. Ils n'ont pas sauvé tout Israël, ils ont sauvé 100 personnes. Mais si vous témoignez de votre foi chrétienne à votre voisin de palier, et que vous le gagnez à la cause de Christ, que vous l'ayez fait dans l'ombre, paisiblement sans que personne ne le sache véritablement, vous avez tout autant fait l'œuvre de Dieu qu'un Billy Graham qui aura converti 2000 personnes en une soirée. Pourquoi ? Parce que la puissance qui œuvre en Billy Graham et en vous, ça n'est pas la vôtre ni la sienne, c'est la puissance de Dieu qui vous fait la grâce de vous utiliser. Abdias est dans la compassion, la miséricorde auprès des prophètes de l'Éternel, Élie apporte le jugement à Israël. Ce jugement nous dérange, parce qu'on aimerait croire uniquement en un Dieu d'amour, en un Dieu un peu mièvre, un peu dégoulinant, qui est sympathique, un espèce d'énorme papa qui nous prend dans les bras, un peu comme le Père Noël. Oui, mais voilà, la vision que la Bible nous donne de Dieu, ça n'est pas celle-là. C'est un Dieu plein d'amour, un Dieu compatissant qui va au bout d'une démarche incroyable. Mais c'est aussi un Dieu de justice, un Dieu de sainteté, qui n'admet pas qu'on lui donne moins de gloire que celle qui lui est due. Le peuple d'Israël a été prévenu par de nombreux prophètes, et il n'a rien voulu écouter. Bien sûr, il y a des excuses atténuantes, il y a des Jézabel, il y a des Balaam, il y a des gens comme ça qui viennent et qui veulent la perte du peuple d'Israël. Mais je trouve ça fort. Élie ne dit pas « Jézabel a abandonné ton alliance, Jézabel a tué tes prophètes ». Il dit « Ils ont abandonné ton alliance, ils ont tué tes prophètes ». Si on regarde bien, ce n'est pas véritablement le peuple d'Israël qui a fait ça. Mais ce que le peuple d'Israël a fait, c'est qu'il a abandonné Dieu, il lui a tourné le dos. Et Élie estime qu'ils sont responsables au même titre que Jézabel des épreuves qui ont eu lieu. Alors Dieu a été patient, un long temps, et au bout d'un moment, le jugement vient. Ce que je voudrais vous montrer, en ce qui nous concerne, c'est que ce jugement, pour aussi terrible qu'il nous apparaît, et même s'il nous dérange, n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il aurait dû être. Dans la loi de Moïse, il est question d'un verset qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que toute personne qui pêche devrait instantanément mourir. On a la présence de la mort dans l'envoi que Dieu fait de Hazaël, de Jéhu et d'Élisée. Il est question qu'il tue un certain nombre de personnes. Mais Dieu a gardé en Israël 7000 personnes fidèles. Dieu a fait une grâce à son peuple élu en conservant un peuple fidèle. Si Dieu avait été au bout de sa démarche, si Dieu n'avait pas été patient, mais aucun d'entre nous ne serions là. Nous avons tous péché. Nous méritons tous un jugement total. Mais c'est comme si Dieu retenait sa colère, comme si Dieu retenait son jugement tout le temps, en nous laissant vivre, en nous laissant grandir, en nous laissant le connaître. Pourquoi ? Parce que dès cette époque, Dieu voyait beaucoup plus loin. Et il voyait que, en tant que Dieu d'amour, lui irait jusqu'au bout de cette démarche d'amour et de sacrifice de soi. Il s'est incarné en Jésus, et en Jésus, il a fait tomber le jugement total, final, le jugement qui nous était destiné, il est tombé sur Jésus. Ce qui est extraordinaire, c'est que notre présence ici est une manifestation de la grâce de Dieu. Quand l'apôtre Paul lit le passage qu'on est en train de lire, il dit « Dieu a gardé un peuple fidèle, un reste fidèle au sein du jugement. À combien plus forte raison, aujourd'hui où la grâce est donnée, il se garde un peuple fidèle. » Ce peuple fidèle, c'est en partie Israël et c'est chacun d'entre nous. Nous sommes la manifestation de la grâce de Dieu au cœur du jugement. Si nous devons retenir un aspect de cela, c'est qu'il nous faut connaître Dieu à la manière dont il se révèle. Un Dieu d'amour, de miséricorde et de compassion. Un Dieu de justice, de souveraineté et de sainteté. L'un ne va pas sans l'autre. Et si nous rentrons dans cette compréhension, vous allez voir que spontanément, on va avoir une adhésion plus naturelle avec un aspect ou l'autre du cœur de Dieu. Certaines personnes vont avoir la miséricorde quasiment spontanée et ils n'auront pas besoin de se forcer pour aimer, accueillir, ouvrir grand les bras, prendre soin. D'autres personnes auront la sainteté de Dieu à cœur de telle manière qu'ils n'auront pas besoin de se forcer pour reprendre, pour corriger, pour exhorter. Et comprendre le cœur de Dieu dans son entier équilibre ce sentiment naturel qu'on peut avoir chez nous et qui nous ferait tomber soit dans une justice légaliste et qui tue, soit dans une miséricorde laxiste et qui tue. Et nous avons besoin des deux dimensions de Dieu, de ce jugement qu'apporte Élie avec le cœur de Moïse. Ce que je voudrais qu'on puisse retenir de ce passage-là et de la figure d'Élie, c'est que Dieu nous aime à ce point qu'il nous corrige. Nous sommes ses fils et ses filles. Il y a un verset dans les Proverbes qui dit « Un fils est corrigé par son père par amour, en substance. » Nous sommes tous des fils et filles de Dieu, et Dieu nous corrige, comme il a corrigé Élie. Il ne nous rejette pas, il nous utilise chacun dans notre ministère, comme un Élie ou comme un Abdias. Les deux ont grande valeur. Mais comme un Élie ou comme un Abdias, il va venir épurer les motifs de notre cœur. Dieu nous appelle à servir avec rigueur, avec crainte de sa sainteté, mais dans un cœur humble et compatissant. Dieu nous invite à... Ah oui, j'ai un peu oublié de passer les slides, désolé. Dieu nous invite à témoigner de sa souveraineté au monde, ou tout du moins à en être prodigieusement conscient pour chacun d'entre nous. Dieu ne nous doit rien. C'est important cette idée. Dieu ne nous doit rien. Nous n'avons rien à exiger de lui, mais nous avons tout à recevoir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, non pour juger, mais sauver le monde. Dieu est un Dieu de sainteté, mais un Dieu de grâce. Et si nous pouvons servir Dieu, si nous pouvons faire les choses de notre quotidien pour lui rendre gloire, faisons-le avec cette conscience qu'il est souverain, mais qu'il est un Dieu de grâce.